Germann et Martin Guibernier.
Bonjour tout le monde et bienvenue à notre balado à l'écoute des investisseurs pour le 29 juillet 2025. Bonjour Martin.
Bonjour Sarah et bonjour tout le monde.
Donc, quelles sont les nouvelles financières qui ont retenu ton attention depuis la dernière semaine?
On a encore une très bonne semaine de bourse. On a des marchés nord-américains là, en général en hausse d'environ 1 % là, côté américain, S&P 500 1 %, le Nasdaq la même chose. L'indice MSCI, Europe, Australie, Asie, 1 % aussi. Au Canada, un petit peu plus tranquille à 0,6 %. On a quand même un excellent rendement boursier depuis le début de l'année, 11,3 au Canada. 8,3 du côté du S&P. On a aussi le dollar canadien qui a rebaissé un peu cette semaine. On était à 0,737 la semaine passée. On est à 0,725. Donc, les titres américains qui ont monté de 1 %, on rajoute un autre pour cent par-dessus là, sur l'effet de la devise. Donc, ça va quand même très bien. Les taux d'intérêt ont baissé un peu au Canada. C'est bon pour nos obligations. Aux États-Unis, les taux sont demeurés stables, les 10 ans à 4,33. Donc, en général, là, l'ensemble des marchés performe bien. On a hier des indices au Canada, aux États-Unis qui ont terminé à des niveaux records. Pourquoi? Ben parce que les profits des entreprises performent quand même très bien. On disait la semaine passée, il y avait entre autres là, Google et Waste Connection, deux titres là, qui sont largement détenus par les clients, qui rapportaient des résultats. Les deux ont eu d'excellents résultats financiers. Les titres ont bien réagi sur ces nouvelles-là. Ce soir, on attend Microsoft, qui est largement détenu. Meta, on n'en détient pas vraiment, mais c'est quand même une entreprise, là, une des sept magnifiques. Donc, c'est toujours très suivi. Donc, les résultats financiers ce soir devraient avoir un certain impact sur le marché.
Puis on les détient pas directement, mais des fois les fonds mutuels.
Exact. Donc soit par un indice ou par un fonds, c'est possible qu'on en détienne. Nvidia là qui continue sa marche à la hausse. Donc Nvidia qui était le fleuron de l'intelligence artificielle. Hein, on se souvient, c'est eux qui fabriquent les processeurs, les micropuces là pour l'intelligence artificielle. Le titre a atteint un sommet historique. On est au-delà de 4 trillions de dollars de capitalisation boursière. Donc, quand la technologie va bien, l'ensemble des marchés va bien. On se croise les doigts que ça continue. Pour l'instant, tant que les entreprises performent bien, l'emploi est fort, il n'y a pas de lumière rouge là, d'allumer. Oui, les politiques tarifaires, c'est un certain niveau d'inquiétude. Par contre, on a vu, ça s'est réglé avec l'Europe, ça s'est réglé avec le Japon. Tranquillement, pas vite, là, les ententes se signent. Est-ce que, tu sais, on voit beaucoup de tarifs à 15 % là, un peu partout. C'est-tu bon 15 % à partir du moment où les entreprises savent c'est quoi les règles du jeu, elles peuvent jouer. Le problème, c'est de ne pas savoir. Donc, on est heureux juste que, tu sais, annonce n'importe quelle nouvelle, mais annonce la nouvelle qu'on puisse passer à d'autres choses. C'est un petit peu la vision du marché à mesure que les tarifs sont annoncés. C'est quand, OK, bon, mais maintenant on sait, on peut faire des estimés sur la valeur des entreprises et les marchés réagissent bien à ces ententes-là.
Bien, merci beaucoup, Martin. Aujourd'hui, on veut s'appuyer sur un sujet, les placements ESG, donc ouais. Environnementaux, sociaux et de gouvernance. Ils ne sont pas nouveaux, mais leur popularité a explosé au cours des deux dernières décennies. Au départ, il s'agissait surtout d'éviter certains secteurs comme le tabac ou les armes. Donc, c'était de l'investissement par ne pas investir.
Exclusion, oui.
Exactement. Mais aujourd'hui, on parle d'intégration proactive de critères ESG dans l'analyse financière. Donc, c'est un petit peu plus poussé. Depuis les années 2010, les investisseurs institutionnels et particuliers ont commencé à exiger plus de transparence et de responsabilité en matière d'investissement. Au Québec, des institutions comme la Caisse de dépôt et de placement du Québec et même Desjardins a été leader dans l'intégration des critères ESG dans leur portefeuille. C'est un sujet que nous avons déjà touché, comme j'ai dit au départ, mais est-ce que tu peux nous définir qu'est-ce que faire des placements ESG?
Oui, donc tu l'as mentionné, là, E, environnement, S pour la société et G pour la gouvernance. Donc, le facteur E, évidemment, c'est le... Tu sais, quand on parle des facteurs ESG, comme c'est un gros E puis un petit S, un petit G, là. Donc, la plupart du temps, on fait beaucoup référence à l'environnement, mais il n'y a pas que ça là-dedans. Donc, l'environnement, évidemment, des entreprises qui essaient de réduire leur empreinte carbonique, qui essaient d'éviter là, la pollution industrielle, ainsi de suite. Donc, ça, on ne peut pas être contre la vertu, là. Je pense que c'est important aujourd'hui. On est tous sur cette même planète, puis peu importe c'est qui le président, les défis demeurent. Hein? Donc, il faut se soucier de ça et ça aura un impact à long terme sur la valeur des entreprises si elles ne se comportent pas comme des bons citoyens. S pour social, donc ça c'est moins bien connu. On parle donc de pratiques, là, on va voir un des critères au niveau de comment l'entreprise est un bon citoyen corporatif. Est-ce qu'elle traite bien ses employés? Est-ce qu'elle traite bien la communauté dans laquelle, les usines sont situées, ainsi de suite? Donc ça, c'est aussi plus difficile des fois à évaluer, moins bien compris, mais ça a un impact important. Et le G pour la gouvernance, donc une entreprise, est-ce que les règles de gouvernance, est-ce que le conseil d'administration est bien diversifié? Est-ce qu'il y a, par exemple, des actions multivotantes qui donnent un pouvoir démesuré à un petit groupe d'investisseurs par rapport aux petits investisseurs? Est-ce que les pratiques de rémunération des dirigeants sont adéquates ou non abusives? Donc, ce sont les principaux, les trois critères ESG. C'est à ça qu'on fait référence.
On peut aussi investir, comme j'ai dit tout à l'heure, par exclusion et aussi de façon participative. Est-ce que tu peux décrire les deux façons?
Oui, donc le ESG, c'est comme la grande catégorie d'investissement socialement responsable, si on veut, mais il y a plusieurs façons de le faire. Donc, le plus simple et la première façon que c'était fait, c'est par l'exclusion, de dire, ben moi, je suis pro-environnement, donc je vais exclure toutes les compagnies de pétrole, je veux exclure les compagnies d'armes, les compagnies de tabac, ainsi de suite. Donc, c'est parfait, ça laisse plein d'entreprises, puis c'est une façon adéquate de le faire, c'est correct. L'autre façon, c'est peut-être de dire, moi, je veux quand même avoir un portefeuille bien diversifié, mais je vais donc aller dans chacun des secteurs puis choisir la meilleure entreprise de son secteur. Donc, même dans un, entre guillemets, mauvais secteur, par exemple dans le pétrole, il y en a qui sont moins pires que d'autres. Donc, je vais dire, je vais favoriser les entreprises qui ont un meilleur comportement ou qui ont un comportement directionnel, c'est-à-dire, elles sont moins bonnes, mais elles s'améliorent, elles font des gestes concrets pour améliorer leur performance, que ce soit en environnement, en social ou en gouvernance. Donc, et en tant qu'actionnaire, donc on va avoir un pouvoir d'influencer le conseil d'administration. Tu sais, entre toi et moi, Sarah, si j'ai 100 actions de la Banque Royale, je n'ai pas même de pouvoir sur le conseil d'administration, mais si je suis le fonds de pension des enseignants de l'Ontario, la caisse de dépôt. Donc là, j'ai des millions d'actions. Quand je prends le téléphone et j'appelle le président du conseil d'administration, il n'y a pas le choix de nous écouter. Donc ça, c'est d'avoir une espèce d'investissement d'influence. Donc j'achète l'entreprise, puis ensuite, j'exerce une pression sur cette entreprise-là pour qu'elle améliore ses pratiques.
Laquelle est la meilleure? Oui, j'aime bien cette façon-là. Je trouve que les deux sont bonnes et peuvent être bonnes et peuvent s'appliquer. J'aime bien l'idée d'avoir un droit de vote puis de mettre de la pression.
Puis ça met un peu en relief. Des fois, les gens vont dire « OK, tel fonds ESG, il y a des compagnies de pétrole dedans, c'est pas ESG. » Il faut comprendre comment c'est fait. Donc, c'est important aussi de ne pas tout mettre dans le même panier. Ils ne sont pas pareils. C'est un peu notre rôle de lever le capot, d'aller fouiller dans le moteur puis de comprendre bien comment c'est fait.
Donc, ça m'amène à mon autre question parce que récemment, tout récemment vraiment, il y a eu une certaine réforme au niveau de ce genre de plateforme au Canada et au Québec. Est-ce que tu peux nous en parler?
Bien, il y a eu des changements de loi. Donc, les autorités réglementaires veulent s'assurer que tout le monde joue sur le même terrain de jeu. On est venu un peu définir l'éco-blanchiment. Donc, c'est quoi l'éco-blanchiment? Un peu comme on le voit sur une boîte de céréales. Là, on achète des boîtes de céréales à l'épicerie, puis là, plein de protéines. En réalité, c'est pas bon ce qu'il y a dans la boîte de céréales. Là. C'est pas parce qu'on rajoute...
Il y a plein de sucre aussi.
C'est pas parce qu'on rajoute le mot protéines que soudainement, c'est un bon produit. C'est un petit peu ça en investissement. On s'est rendu compte qu'il y avait plusieurs produits probablement qui surévaluaient leur facteur ESG, si on veut, on va le dire poliment comme ça.
Oui.
Donc, les autorités veulent s'assurer que si on fait des prétentions ESG dans un produit, mais que le produit, il est bel et bien ESG. Donc, on est venu modifier des lois, entre autres, une loi sur la lutte contre le travail forcé dans les chaînes d'approvisionnement qui oblige les entreprises à divulguer leurs pratiques. Donc, tu sais, il faut lire un peu, là. Il faut aller fouiller là-dedans, mais là, maintenant, on vient obliger les entreprises à vérifier, à valider et à s'assurer que dans leur chaîne d'approvisionnement, de l'autre côté de la planète, qu'il n'y ait pas du travail forcé, par exemple, fait par des enfants ou dans des conditions qui sont pas acceptables. On a modifié aussi la loi sur la concurrence qui interdit justement l'éco-blanchiment puis qui exige des preuves pour toute déclaration environnementale. Donc, un fonds ne peut pas juste lancer comme ça, si vous investissez avec nous 1 000 $, on sauve 200 arbres, tu sais. OK, ben montre-moi les mathématiques derrière ça. Donc là, c'est important là, vraiment de s'assurer. Les produits doivent s'assurer que ce qu'ils disent, c'est la vérité. Ça nous permet à nous, comme consommateurs, comme conseillers, ben, s'il y a une prétention qui est faite, bon, on peut mieux s'y fier maintenant que c'est mieux réglementé. Et le Conseil canadien des normes d'information sur la durabilité, ben, ils ont introduit des normes de divulgation plus rigoureuses, plus standardisées aussi. Donc, d'une entreprise à l'autre, dans le passé, c'était fait un peu de façon volontaire. Donc, tu sais, une entreprise pouvait divulguer quelque chose d'une certaine façon, puis l'autre, similaire, le faisait différemment. Donc, tu sais, tu as deux entreprises similaires, mais qui divulguent différemment, c'est difficile de les comparer. Donc, si on vient un peu mieux standardiser la méthode de divulgation, on peut plus facilement comparer pour dire l'entreprise A a des meilleures pratiques que l'entreprise B et non pas juste par comment c'est écrit un peu aléatoire par l'entreprise.
Bien, puis qu'est-ce que je trouve intéressant, c'est que l'ESG ou environnement social et gouvernance se voit vraiment aussi à l'intérieur de la pratique de l'entreprise avec ses fournisseurs. Donc, une fois que l'entreprise prend l'engagement, elle demande l'engagement de ses fournisseurs. Et je me rappelle, dans une autre vie, on signait des contrats avec des grandes banques. Et les grandes banques nous demandaient, mais c'est quoi votre politique de recyclage? C'est quoi votre politique de diversité pour les employés? Donc, ça s'écoule vraiment jusqu'au bas de l'échelle économiquement, et c'est intéressant. Donc, il y a une certaine perception des investisseurs que lorsque j'investis en placement ESG, donc lorsque j'applique mes valeurs, je vais me faire pénaliser au niveau des rendements. Hein. Et surtout maintenant, avec l'ère de Trump et de qu'est-ce qui se passe aux États-Unis, est-ce que tu peux nous parler de cette façon de penser et qu'est-ce que toi, tu en penses?
Ben c'est pas vrai, en fait. Donc, il y a eu des études, là, des méta-études. Là, donc, on étudie des milliers d'études, puis là, ça détermine, ben c'est quoi la conclusion d'investir en ESG ou pas en ESG? Est-ce qu'il y a un écart significatif de performance? Et en réalité, non. Donc, l'investissement ESG serait au pire neutre et probablement légèrement favorable au rendement aussi au rendement ajusté en fonction du risque. Donc, les études là, démontrent, en général, l'investissement ESG va légèrement mieux performer. Par contre, il y a des périodes, si par exemple les commodités, donc les mines, le pétrole et tout ça performent très bien. Donc oui, là, à ce moment-là, l'investissement ESG tend à moins bien faire durant cette période-là.
Donc, qu'est-ce qu'on peut dire, du moins, c'est que la séquence de rendement ne sera pas nécessairement pareille que d'autres. Mais au final, ça devrait, après, sur une cycle complète, exemple 8 ans, ça devrait performer de façon similaire.
Exact. On sait que des fois que les marchés peuvent avoir des cycles, des séances momentum. Là. Pendant un certain temps, une affaire performe super bien. Des fois, c'est pas toujours logique. On a reparti là, récemment les meme stocks, là, les entreprises de très piètre qualité. Mais il y a beaucoup de petits investisseurs de détail sur des plateformes comme Reddit là, qui popularisent ça, puis soudainement, l'action se met à partir. Donc, oui, il y a des petites fenêtres où ça performe moins bien, mais en bout de ligne, l'étude démontre qu'en période difficile, par contre, dans les baisses de marché, les titres ESG tendent à moins baisser que les autres. Entre autres, probablement parce que elles, ce sont des entreprises de meilleure qualité en général. Donc, quand on les regarde sur un 6 mois, 1 an, 2 ans, il peut y avoir un écart de performance. Quand on les regarde à plus long terme, les études là, démontrent que c'est au pire neutre et au mieux même légèrement favorable. Donc, il n'y a pas de perte de rendement de dire, ben moi, j'aimerais ça, je peux être juste un peu mieux. On n'a pas besoin d'être parfait. Là, moi, je dis toujours, la perfection, c'est l'ennemi du bien. Je ne l'ai pas inventé, évidemment, c'est un vieil adage. Mais c'est ça, pareil, à essayer d'être parfait, finalement, on ne fait rien. Mais si on est juste un peu mieux, puis qu'on est à 8 milliards à être un peu mieux, ben ça va déjà faire un impact qui est important. Ce qui est le fun aussi, ce qu'on a regardé, ben tu sais, ah ouais, mais là, c'est Trump, tu sais, dans un contexte de gouvernement républicain aux États-Unis qui est contre à peu près tout, qui est en faveur du pétrole puis du charbon, ouais, ça devrait pas être un bon timing pour ça. Ben surprise, tu sais, il y a un FNB, un fonds négocié en bourse d'investissement propre, donc qui est le iShares Clean Energy, qui va regrouper un paquet d'entreprises là, dans l'énergie propre. Donc, depuis le 1er janvier 2025, cet indice-là est en hausse de 20,6% contre 8,3% pour le S&P 500. Ben c'est drôle, tu sais, c'est Trump maintenant qui est revenu à la présidence, puis cet indice-là surperforme. On avait vu ça aussi durant la première présidence de Trump en 2016 et 2020, les titres d'énergie renouvelable avaient super bien fait. Et puis quand Biden est arrivé, ça s'est mis à moins bien aller. Tu sais, la corrélation, c'est pas nécessairement la cause. Hein? Donc, c'est pas parce que c'est corrélé que c'est ça la cause. C'est pas à cause de Biden. Il y a peut-être, si tu as à cause des hausses de taux d'intérêt, de l'inflation, et ainsi de suite. Donc, peu importe, c'est pas parce que c'est un président républicain que les titres d'énergie renouvelable. Et par ricochet, on sait qu'aux États-Unis, ils ont rendu illégal les facteurs DEI, là, de Diversity, Equality and Inclusion, là, de diversité, égalité, inclusion. Les entreprises n'ont pas le choix de s'y conformer, c'est la loi, tu sais, donc on ne peut pas
Mais ils font pareil, hein?
Ils ne
mentionnent pas, mais ils font pareil.
C'est ça.
Je pense que c'est ça aussi qui est important à mentionner, c'est que même si on a l'impression qu'on a arrêté d'avancer, on avance quand même doucement, peut-être plus en arrière-plan, on le médiatise pas, on s'en vante pas, mais ça continue à progresser.
La réalité de la chose, c'est que peu importe c'est qui le président, puis où on en est dans un cycle économique, les défis environnementaux sont présents, on peut bien les nier, là, mais ils sont là pareil. Puis la croissance de la population mondiale, ça continue d'augmenter. Donc, les défis sont là et il y a des entreprises qui vont être présentes pour relever ces défis-là et probablement que ces entreprises-là devraient bien faire à long terme. Peu importe qui le président, ça va arriver.
Puis, on va quand même demander de la diversité. Les gens le demandent, c'est tout normal. On va quand même vouloir des compagnies qui ont une bonne gouvernance. Ça continue peut-être un petit peu plus en arrière-plan. Donc, merci beaucoup, Martin. Une bonne discussion aujourd'hui. Si vous voulez discuter de ce balado, Mathieu, Michel, Martin et moi sommes toujours disponibles. Aussi, on est là absolument si vous avez des besoins, vous avez des questions concernant vos objectifs financiers personnels, communiquez avec nous. Merci pour votre écoute cette semaine et à la semaine prochaine.